France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un humoriste, un comédien, un auteur, un réalisateur, Thomas Ndjijol. Beaucoup l'ont découvert sur scène, notamment à l'époque du Jamel Comedy Club, avant de le voir s'imposer au cinéma comme acteur, comme scénariste, comme metteur en scène. Il y a eu Casse Départ, Fast Life, Black Snake, plus récemment Indomptable, film qui montrait encore une autre facette de son univers. Et aujourd'hui, le voilà de retour avec Police Flash 80, une comédie policière, rétro, collective, drôle, nourrie de souvenirs, de musique, d'images de son enfance aussi, un film qui regarde les années 80 avec tendresse, humour, sans les idéaliser non plus. Alors ce soir, on va parler de cinéma, d'humour, de musique aussi forcément, et même de l'amour de notre invité pour le Paris Saint-Germain, Thomas Ndjijol. Dans La Régulière, c'est tout de suite, jusque 23h.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Police !
Le ministre m'a demandé de créer une brigade spéciale des meilleures îles de France, la police Flash 80.
Oh non, pas plus, j'aime pas le nom.
Vous en étiez où de l'enquête sur le trafic d'héroïne ?
Tous mes dealers me disent que tu prends 20% de la recette.
Vous avez pas des procès-verbaux d'interrogatoire, des saisies ?
Oh oh, on baisse le chauffage, Guilou, d'accord ?
Guylaine.
Y a un patron, hein. Y a un coq dans un poulailler, y'en a pas deux. Hein.
Moi, si je m'écoute, c'est tout dans sa gueule, hein.
Non, 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 non. Mais vous en faites quoi du code de déontologie ?
Je me torche avec.
Oula. Police !
Elle est pas des témoins de Jéhovah, putain. Là, il est mort de chez mort. Alors, le topo ?
Juste une belle brûlure et un trou de balle dans le front.
Alors c'est un extrait donc de la bande-annonce de Police Flash 80, le film pour lequel notre invité Thomas Ndjijol est là aujourd'hui. Alors on a entendu d'autres voix hein, familières, ouais. François Damiens, Audrey Lamy, Xavier Lacka, Ibrahim Boulel aussi qui ouais. figure au casting. Thomas, merci d'être là déjà.
Bah merci à toi Mehdi.
Avec grand plaisir. Et alors la première question, on l'entend, hein, c'est évidemment un film policier, c'est une comédie, mais c'est aussi, et son nom l'indique, un film pas sur les années 80, mais en tout cas qui se passe dans les années 1980. Pourquoi t'avais envie, alors t'es pas le réalisateur du film, mais en tout cas je crois que c'était une idée qui vient de toi, donc ouais. Tu portes ce projet.
Ouais, ouais, ouais.
Pourquoi tu voulais placer l'action à ce moment-là ?
Bah, il y a évidemment l'humour, il y a toute la nostalgie de cette époque-là, et puis après quand même, au-delà de ça, et de toutes ces figures cinématographiques qu'on avait enfant, de Bébel à Delon, ouais. tous ces films-là, il y avait quand même encore un petit effet miroir de notre époque aussi, tu vois, dans le sens où c'est des années, pour le coup, que j'ai connues, j'avais quand même conscience de certaines choses, j'avais conscience en partant dans le passé que ça allait faire un effet un peu puissant sur notre époque en 2026, ouais. donc c'était de jouer aussi tout ça, quoi, comme on l'avait fait un petit peu sur Casse Départ, différemment.
Quand tu parles de nostalgie, on est tous un peu nostalgiques parfois de son enfance. Est-ce ouais. que toi, les années 80, elles te manquent ou elles sont derrière toi et c'est comme ça? Mais est-ce que, même dans la musique, parce qu'il y a une bande-son aussi qui est ouais. que des morceaux des années 80, ouais. Dans les références, dans les vannes, même dans le langage employé, ouais. est-ce que ça te manque, les 80s?
Non, j'ai de la nostalgie au bon endroit. J'étais enfant, donc je n'ai pas non plus idéaliser cette époque. Mais je pense qu'on a vécu une belle période, comme je dis, c'était des années Mitterrand, il y avait quand même de l'espoir.
Oui,
quoi,
c'est
tu
vrai,
vois, il y avait
qui est élu en 80, donc c'était l'élan en tout cas. Il y avait
exactement, et les socialistes, on y croyait quoi. Nous, voilà, les socialistes, le FN, on va les tuer, on va les finir et tout. Voilà, on a cru, on avait cette espèce d'utopie dans les années 80 qui nous accompagnait et qui amenait son brin de légèreté. Mais après, non, moi je suis bien dans mon époque, mais rien ne remplacera mon enfance, ça c'est sûr.
Forcément. Ouais. Tu joues un personnage qui s'appelle Luc Le Timal.
Ouais.
Je ne spoile pas si je dis que c'est l'antagoniste.
Parce on
l'apprend assez tôt.
On le sait tôt, même dans la bande-annonce, on le sent. De toute façon.
Exactement. Comment tu as créé ce personnage ? Est-ce que tu avais des modèles ? Parce qu'il y a aussi un look que ce personnage il a, évidemment une manière de parler. Comment tu as modelé un peu ce personnage ?
Franchement, comme j'ai dit depuis le début, moi, ce film-là, c'est aussi, pas dire un hommage à Maison Alfort, où j'ai grandi, mais il y a beaucoup de Maison Alfort, un petit
ouais,
peu dans
le 94.
Sens, exactement, ouais. Dans le 94, Val-de-Marne, 9-4, dédicace au 113 et tout, chacun free, bref.
Je ne veux pas tous les citer, ils sont trop, il y en a trop.
Tous les citer, mais bon, voilà, on est obligé, c'est dans le contrat du 9-4. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Non, dans le sens où, bien sûr, mais à l'époque, la communauté entière était très présente à Maison Alfort. Vraiment, il y avait beaucoup de choses associatives qui se faisaient même autour d'eux, des fêtes. Il y avait beaucoup de dirigeants du club de quartier dans lequel je jouais, qui étaient d'origine antillaise et tout. Et puis, ils étaient présents dans la vie, quoi. Tu sais, le dimanche, on les voyait. C'est pas un cliché.
Oui, oui.
Ça lavait sa voiture.
La MJC.
C'était élégant. C'était, tu vois, donc Luc Le Timal, il est un peu. Il s'appuie un peu de ça. Il s'appuie aussi de certaines. Avant l'heure, mais il y avait quand même les premiers sapeurs aussi. Il y avait quelques tontons, pas forcément du Cameroun, mais quelques figures africaines qui étaient dans l'élégance, quand même. Donc, Luc Le Timal, c'est un peu moi qui regarde toutes ces figures d'anciens qui étaient plutôt classe. Ouais.
Et que tu idéalisais un peu, en tout cas, est-ce que c'était les grands à qui tu voulais ressembler
Ils étaient beaux, noirs, à l'époque c'était les années 80. Quoi. On n'avait pas non plus de référents tout le temps. Donc oui, quand tu voyais... un entier qui débarquait avec sa Ford Escort rouge.
C'était la classe.
Il avait la classe, quoi. Donc oui, oui, j'aimais beaucoup ces personnages-là, ouais.
Effectivement, ce qui c'est très vrai, c'est que, en tout cas, dans la pop culture française, il y avait peu de, voire pas, de personnalités noires auxquelles se référer. Il commençait à y en avoir, en tout cas, aux États-Unis, un peu dans le sport. Je pense à quelqu'un comme Marius Trésor, par exemple, qui joue en équipe de France.
Yannick Noah, absolument.
Est-ce que c'était... Est-ce que c'est des personnes, justement, qui pouvaient faire figure, en tout cas, de modèle de référence pour toi?
Quand j'étais petit,
ouais.
Quand t'es petit, moi en tout cas, je parle, j'avais plus un sentiment de solitude, je cherchais pas des référents en fait. Tu vois, je me posais même pas la question d'être noir.
La couleur de peau, ouais, non, elle est arrivée plus tard.
C'est à l'adolescence où tu te rends compte que t'es noir parce que tu vois juste des comportements qui sont attribués à ton origine.
Oui, oui.
Mais quand j'étais petit, en vrai. Sans utiliser les termes vivre ensemble qui sont aujourd'hui, voilà, on était tranquille en fait. Il y avait même pas, on parlait très peu de nos origines en fait. On était des enfants qui gambadaient là. Il y avait même pas d'Algériens. On savait d'où on venait et en même temps, on appartenait à la communauté de notre quartier, de notre ville un peu.
Pourquoi c'est intéressé aussi à la police, parce que toi, tu joues pas un policier, on l'a dit dans le film, mais on va dire qu'on suit une brigade, donc la brigade police Flash 80. Ouais. Pourquoi ça te semblait aussi peut-être être un objet cinématographique intéressant? Parce que tu disais un petit peu, c'est vrai qu'on a mangé des films policiers dans les années 80, pour en reparler un petit peu après, notamment français, alors américain, mais aussi français. Il y a beaucoup de films qui filmaient les commissariats, les gardes à vue. Est-ce que voilà, ça faisait partie aussi, c'était quelque chose que tu voulais un peu faire revivre quelque part?
Bah oui, revivre... En fait, à la base du scénario, c'est moi qui tombe sur un film de Belmondo, de Alain Delon, Parole de flic, je crois, qui est complètement politiquement incorrect aujourd'hui, qui pourrait pas du tout passer à la télé. Enfin, je l'ai vu, c'était l'alu, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que...
C'est-à-dire dans les mots employés, dans les comportements.
La misogynie, le racisme, des trucs un peu d'époque et de... C'était une telle star qu'il se rendait même pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas lui faire un faux procès ou quoi. Mais
c'est pas le seul d'ailleurs.
C'est des films d'une époque et à un moment donné, bon, c'est comme ça, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'en voyant ce mec-là, je me suis pas projeté moi. C'est ça qui était agréable. C'est que je me suis pas dit, putain, j'ai envie de faire ce mec. J'ai dit, putain, ça serait marrant de voir un mec comme ça et en même temps... Il faut l'aider, ce mec, parce que s'il est tout seul pendant une heure et demie, tu te dis, bon, c'est drôle, mais c'est horrible, quoi. La morale de ton film, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est vrai que derrière, j'ai tout de suite pensé à une équipe de jeunes qui lui disent, écoute, là, il faut que tu changes à cet endroit, en tout cas, qui lui fasse remarquer que t'es pas dans le truc, quoi. Donc, et puis, j'avais aussi, au-delà de ça, beaucoup une envie de comédie. Et de films chorales, de films avec d'autres comédiens, de rencontrer... Parce que souvent, j'en discute des fois avec des collègues quand je les croise, mais je dis, putain, en vrai, si on se croise pas par hasard à la boulangerie ou je sais pas quoi, des fois, on se croise jamais. Bon, à leur décharge, en tout cas, moi, à ma décharge, je ne vis pas à Paris, je suis très dans mon coin, j'évite, entre guillemets, pas mal de mondanité, donc ça fait que je suis... Mais c'est vrai que là, je me disais, tiens, tu vois, sorti d'Empathie où j'ai tourné à l'extérieur, au Canada, de Indomptable où j'ai tourné au Cameroun et tout. Et puis même de la comédie pure, j'avais envie
de revenir à ça aussi.
Ouais, un petit côté, une petite colonie, quoi. De rigoler, d'envoyer aussi, envoyer le message, mais dire que voilà, quoi, j'aime rigoler toujours.
Si je ne dis pas de bêtises, la cover, en tout cas la pochette de ton premier spectacle, c'était un détournement de Thriller de Michael Jackson.
Ouais.
La musique dans les années 80, c'est aussi très important. Évidemment. Qu'est-ce que t'écoutais, toi, à l'époque, dans les années 80? C'est aussi le début du rap. Je ne sais pas si tu commences à en écouter à ce moment-là ou si ça arrive dans ta vie.
J'ai tout pris, en fait. Ouais. Donc c'est ça que je trouve extraordinaire dans les années 80, c'est qu'on voit la naissance
de genres musicaux.
De genres musicaux.
La techno aussi.
Voilà, le hip-hop est vraiment dans toutes ses fonctions, que ce soit la danse, le graphe,
le DJing
et tout. Donc c'était quand même super. J'avais un âge où je pouvais peut-être pas comprendre, mais en tout cas voir l'arrivée. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait le frisson que j'ai eu à cette époque-là, je le ressens encore. Je peux encore tu vois, les premiers Smurfers, les premiers morceaux de rap, les premiers les trucs de Radio Nova et tout, je les entends, en fait. Donc,
ciné avec HIPHOP, auquel vous faites référence
dans
le film.
Oui, oui, oui. Tout ça, c'est des... Donc, oui, à l'époque, en fait, ce qu'il y a de génial d'avoir grandi dans cette époque-là, c'est qu'avant le rap, il y avait tout un tas de courants musicaux.
Ouais.
Mon père est assez mélomane, donc du coup, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de vinyles à la maison et j'avais de tout, tu vois. Et bizarrement, au milieu, il y avait quand même Carlos. Je me rappelle qu'il y avait quand même un ou deux, trois morceaux de Carlos. Il y avait la salsa du démon, là, tous ces trucs-là. Donc, en fait, j'étais vraiment élevé à la variété. Et après, par le courant du hip-hop m'a pris. Et puis aussi beaucoup à la pop anglaise. Moi, j'avais un amour fou de la pop anglaise. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui venait de l'Angleterre me fascinait, en fait.
Mais je trouve qu'aussi, même en tout cas, le fait que tu aies grandi aussi avec la chanson française, même cette culture française, tu le revendiques. En tout cas, c'est en toi, même dans ta manière d'écrire, je trouve, même dans les expressions parfois que tu as, soit sur scène, soit dans tes films, on sent qu'il y a aussi une forme de... T'es entre plusieurs références, mais ça fait partie de toi, vraiment.
Bien sûr, et puis c'est une chance, en fait, à notre âge. Moi, je m'en rends compte, et comme je te l'ai dit avant, nous, enfin, j'ai grandi donc à Maisons-Alfort, et nous, c'est beaucoup... Alors, c'était certes une ville plus à droite, si on peut dire, mais on a été beaucoup élevés, tu sais, dans les trucs associatifs. Il y avait beaucoup de communistes, beaucoup de mecs avec des, tu sais, des blancs, on va dire, mais avec leur gouaille et qui étaient ce qu'ils étaient. Personne ne se justifiait, en fait, à cette époque. Et même, j'ai envie de te dire, même les rebeux éducateurs à l'époque, c'était pas le même jargon qu'aujourd'hui. C'était du vieux jargon. Moi, j'ai père à son âme, c'était un très grand comédien français qui habitait dans mon immeuble, Jean-Roger Milhaud. Tu vois, vous ferez vos recherches, là, je suis dans Les Misérables, dans L627. C'était une figure de cinéma de fou. Il était dans mon immeuble. Il s'appelait Saoud, c'était pas son vrai nom. Jean-Roger Milhaud, il a changé pour des raisons qu'on peut imaginer à l'époque. Et c'était un voyou à l'ancienne. Mais quand tu l'entends parler, tu peux taper dans l'INA, il y a des vidéos de lui. Il parlait un titi incroyable, en fait. Et c'est vrai que ces mecs-là, inconsciemment, déjà, quelques fois dit, c'est si j'en suis arrivé à ce milieu-là, c'est parce que ces mecs-là étaient là avant moi et qu'ils ont, quand j'ai vu, en fait, c'est lui qui habite au deuxième qui est dans ce film-là. Bah, pour un enfant, ça envoie un message, tu vois. Donc, voilà, ce mélange de toutes ces générations, de toutes ces cultures, au final, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une vraie richesse. Une vraie richesse, ouais.
Alors, dans le film, il y entend plusieurs morceaux. Il y a toute une BO avec pas mal de tubes des années 80. Je propose qu'on en écoute un qu'on retrouve dans le film. J'adore ce morceau.
Ouais.
C'est Cargo de nuit.
Ah, putain.
Quel morceau. Mais en fait, en le réécoutant, la production, elle est incroyable.
Elle est incroyable.
Il y a parfois des choses qui vieillissent un peu. Mais c'est un morceau extraordinaire.
Moi, j'y ai pensé au dernier moment quand on parlait musique avec le réalisateur. Et c'est vrai que quand je l'ai entendu, j'ai dit, ah, mais oui, mais c'est le début du film. Il y a de la moiteur, il est magnifique, ce morceau.
Bon, on s'écoute ça. Axel Bauer, donc, avec Cargo de nuit, avec un clip de Mondino à l'époque. Axel Bauer, donc avec Cargo de nuit, morceau qu'on écoute ce soir, puisqu'il est dans la BO du film Police Flash 80.
France Inter. Mehdi Maizi. À la régulière.
Et donc, Police Flash 80, c'est un film où, pour lequel Thomas Hiddleston est à l'affiche. Tu joues Luc le Timal dedans.
Absolument.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Alors, il y a aussi quelque chose dont je voulais parler. Et ça, j'ai adoré.
Ouais.
C'est le nom de certains personnages qui sont des noms de footballeurs des années 90-80.
Ouais,
je pense à Yvon Castendutch,
bah oui,
qui est le personnage donc de François Damiens, ce qui j'imagine est une référence à Sylvain Castendutch.
Absolument.
Joueur mythique de la Division 1 à l'époque. C'était avant la Ligue 1.
Du FC Metz.
Exactement, du FC Metz. Défenseur, libéraux, si je ne dis pas de bêtises.
Qui a eu une fin de carrière la plus extraordinaire du football français.
Ah, je ne sais pas ça.
Bah, il s'est pris une balle dans la tête en plein match, à son match de jubilé. Il s'est effondré, il est sorti.
C'est terrible, j'avais pas l'info, le pauvre.
Ah bah tu reverras, c'était à l'époque, il avait eu beaucoup d'humour parce qu'il y avait un mec sur Canal+, Philippe Laguey, là, qui lui avait fait, qui faisait une rubrique un peu rigolote.
Ah oui, je vois, tout à fait, c'était génial.
Et il
ça.
Lui avait redonné, je sais plus ce qu'il offrait, là, de sorte de ballon d'or, des moments mémorables.
Okay.
Et ouais, non, mais pour moi et mes potes, Castendutch, c'est une icône pour sa sortie. C'est, ouais. Voilà, tu verras sur YouTube.
Donc c'est un sujet presque de humoristique, en fait, avec tout le respect qu'on a
bien
prouvé.
Sûr, mais... bien sûr. Mais derrière, voilà, c'est. Tu vois,
c'est une époque aussi.
Ouais, c'est une époque. Et puis c'est des noms qui sonnent, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire.
Parce qu'il y a aussi des frères Caveglia.
Les frères Caveglia.
En référence à Alain Caveglia, qui était pour le coup un très grand attaquant.
Très bon attaquant. Aucune sélection d'équipe de France, mais très bon attaquant. Ouais. Ouais.
C'était les mecs qui jouaient, tu sais, dans les A'. Tu sais, à l'époque, il y avait les A, il y avait les A'.
Mais je pense qu'il avait été pris une fois ou deux en A'.
C'est possible.
Mais c'était un très bon joueur, Alain Caveglia.
Ouais, vraiment. Et je me suis demandé aussi, parce qu'il y a Molinari, est-ce que c'est une référence à Carlo Molinari?
Ah, bah oui, qui... président du FMS, ancien pilote de rallye, là, je sais pas trop quoi. Et puis, il y a aussi une autre référence.
Ah, il y a peut-être une autre rêve que j'ai pas.
Il y a une photo d'un Gérard Janvion aussi, un ancien du PSG.
Ouais. Ça, c'est, t'as une forme de... Là encore, sans idéaliser quoi que ce soit, parce que le football, ça évolue, mais il y a une forme de... Moi, pour le coup, je sais que j'ai une vraie nostalgie pour les années 90, pour ça. Est-ce que toi, les années 80, même les looks, tu sais, dans le football, les shorts, les maillots, est-ce que tout ça, ça c'est quelque chose qui peut te manquer aussi?
Bah,
il y a un charme lié à cette époque.
Bien sûr qu'il y a un charme. Alors ça, oui, ça, il y a un charme. Tu vois, à l'époque, tu voyais des mecs qui... Certains, ils jouaient sans protège-tibia, déjà, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'était certes dangereux, mais même les... Ouais, comme tu dis, les shorts, les... En fait, c'était une époque où...
L'hygiène de vie n'était pas la même.
Ouais,
aussi,
l'hygiène n'était pas la même. Les histoires des footeux de l'époque, elles sont 700 fois plus marrantes qu'aujourd'hui. Les histoires d'aujourd'hui, sans dénigrer le fait que les mecs kiffent leur époque et ils ont bien raison. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus rock'n'roll parce qu'au final, ils faisaient des entraînements un peu comme nous en amateur, niveau au-dessus. Quoi. Allez les gars, on va commencer avec un petit Cooper, footing, et voilà. Enfin, quand tu vois l'image les anciennes images de l'INA, là, tu vois, l'équipe de France s'entraîner, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est pathétique, quoi. Tu vois, tu te dis, c'est ça, là. Mais en même temps, c'était l'intensité de l'époque et ça matchait bien, quoi.
Le personnage donc principal, celui de Yvon Castendutch, donc est joué par François Damiens, qui joue donc un vrai flic à l'ancienne, un vrai flic des années 80, mais avec un cœur, vraiment.
Ouais.
Donc le film commence avec le décès de son collègue, son binôme. Est-ce que François Damiens, ça a tout de suite été une... C'est assez drôle parce qu'on sait qu'il est belge, mais est-ce que ça a été forcément lui l'évidence pour interpréter ce flic français, vraiment français justement dans l'esprit?
Sincèrement, et je suis très honnête, parce qu'en fait, il fallait un mec méchant. Mais comme tu l'as dit si bien, avec du cœur, en fait, on se dit que dans sa méchanceté, c'est jamais méchant. En fait,
il arrive à nous faire passer, je trouve, des réactions vraiment qui pourraient être détestables.
Ignoble,
mais comme c'est lui,
ça passe.
Il y a de la tendresse.
Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de ça. Tu vois, il fallait évidemment un mec générationnellement aussi qui colle à cette génération, un ancien, si on peut dire. Et voilà, où on dit que non, mais on est toujours dans la comédie. Le mec, on se marre, en fait. Tout va bien, tu vois. C'est pas à premier degré où tu dis, en fait, c'est malaisant, votre histoire. Et il a cette force-là. Il est vraiment... Moi, je n'avais jamais tourné avec lui. Je l'ai vu devant moi, à l'œuvre. Ouais, il a un pouvoir comique super. Et justement, il peut se permettre d'être méchant.
Oui.
Et ça fonctionne.
On lui pardonne ça.
On lui pardonne.
Justement, quand tu disais que tu avais aussi une envie de revenir à la comédie et de tourner avec une bande... Audrey Lamy, Ibrahim Boulel, ouais. François Damiens, c'était justement des gens, parce que toi, qui est à l'origine du projet, mm-hmm. dans quelle mesure, je me demande, t'es aussi impliqué dans le casting, dans l'envie, en tout cas de...
Je suis un peu prod, donc forcément, j'étais un peu concerté par toutes ces étapes artistiques, mais tout en laissant la liberté totale au réalisateur. Hein. C'est pas moi qui réalise, j'étais pas derrière en marionnettiste, mais c'est vrai qu'on se consultait et tout, et moi, comme je te le disais avant, j'avais envie de voir un groupe de comédiens qui ne s'étaient pas forcément rencontrés.
Oui, tu voulais créer une bande, ouais.
Ouais, pas faire du réchauffé, pas avoir un truc où on se dit, tiens, lui, on l'a jamais vu ensemble. Et enfin, la meilleure preuve de ça, c'est quand même Audrey, Lamy et François, qui n'avaient jamais travaillé ensemble et qui ouais. se sont entendus de fou, quoi. Tu vois, en
ça promo. Se voit à l'écran, même.
Bah oui, ça se voit à l'écran, en dehors, ça se voit même après... Parce qu'il y avait toujours un petit coup qui pouvait durer jusqu'à 3h du matin. Mais non, mais c'était tout ça. Ça montrait vraiment qu'il y avait une ambiance globale sur le tournage entre le comédien qui était toujours bien. Parce que même Brahim, moi, je ne le connaissais pas. Oui. Je l'ai rencontré là. Il est super. Xavier, super. Philippe Robot, qu'on n'a pas cité, mais quand même, c'est la dernière référence, le commissaire Bourillon.
Ah, il est extraordinaire, voilà, ce personnage. Ah, Bourillon, le... Oui, oui.
Lorient, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà, Bourillon, le grand Bourillon, ancien du PSG.
Absolument.
Bourillon, Philippe Robot, extraordinaire. Donc, vraiment...
Après, on dirait qu'il est sorti tout droit des années 80.
Ah bah oui,
pour
lui, il y avait juste à faire ça, ouais. et le poser là. Tout était parfait. Mais en fait, c'était ça qui était super. Et puis, dans l'absolu, moi, comme je le dis souvent, moi, je ne fais pas ce métier pour souffrir. Et vraiment, c'est très important pour moi de... Quand je quitte ma maison, je quitte ma famille... C'est pour prendre du plaisir, en fait. Je n'accepte pas d'être maltraité sur un tournage. Et je n'accepte pas non plus de maltraiter. Enfin, c'est peut-être l'époque MeToo qui fait résonner ce discours-là différemment. Mais moi, dans la condition de jeune homme, quand je suis rentré dans ce métier noir et tout, j'ai vu des trucs, tu vois, tu supportes des choses et tu dis, mais en fait, normalement, ce métier, je l'ai fait pour rêver, en fait. Je ne l'ai pas fait pour souffrir ou quoi. Donc... Je suis très vigilant si je suis à l'origine d'un projet, à ça en fait.
Thomas Gijol est avec nous jusqu'à 23h. Thomas Gijol, oui bien sûr, je vais te servir de l'eau évidemment. Non, mais oui, je te le dis. Police Flash 80.
Est-ce qu'il y a encore de l'eau à France Inter?
il nous reste encore ça.
Il vous reste au moins ça.
Il nous reste de l'eau.
De l'eau fraîche.
Alors, le film, donc, il sort donc demain en salle. Police Flash 80, c'est une comédie. Et c'est un genre compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un genre populaire évidemment.
Bien sûr.
Il y a beaucoup de comédies qui sortent au cinéma, sur les plateformes. Mais c'est toujours compliqué, je trouve, tu sais, à. Trouver le bon équilibre entre évidemment des gags, le bon casting et aussi une intrigue qui se tient et pas juste une succession de gags. Comment, toi qu'on a fait plusieurs, certaines qui ont énormément marché, pardon, d'autres un peu moins, mais globalement, qui a connu des succès depuis plusieurs années maintenant, c'est quoi comment on fait justement pour trouver cet équilibre-là entre la bonne intrigue et les gags en fait, des gags qui fonctionnent?
Je saurais pas dire. Je pense qu'il y a une histoire de... Pardon.
je vais te servir de l'eau.
J'étais bien jusqu'à là et là, l'interview a complètement dérivé. Mais je sors de table, je suis désolé.
je t'en prie.
Mais non, mais je pense qu'il n'y a pas de recette. Hein.
Ouais.
Je pense qu'il y a...
Est-ce que c'est le genre le plus compliqué à réussir au cinéma?
C'est celui sur lequel... Je dirais pas que c'est le plus compliqué, mais c'est celui sur lequel on va tirer le plus facilement parce que la sentence, elle est immédiate.
Tout à fait.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas marrant. Tu vois, le film d'auteur qui se branle, qui n'a aucune profondeur, on va peut-être pas le sentir tout de suite. Et à la fin, tu dis, putain, je me suis fait chier. Alors que pas marrant, c'est tout de suite, quoi. Tu dis, mais en fait, ça fonctionne pas, tu vois,
Et puis moi, j'ai un ami qui me disait qu'en fait, faire pleurer tout le monde, c'est presque simple. Il y a des scènes qui vont faire pleurer tout le monde, tu sais. Alors que faire rire tout le monde, c'est plus compliqué.
Je suis pas tout à fait d'accord, parce que faire pleurer... alors, chacun a sa sensibilité, tu vois, tu peux pleurer à des choses et moi pas, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Maintenant, les codes pour tirer la larmichette, ils sont des fois plus évidents, mais la vie, elle est trop compliquée. Enfin, moi, je considère, si tu veux me faire chialer, pourquoi pas, je peux chialer sur un film, ça m'est rarement arrivé, ou en tout cas, non, rarement. Le seul qui m'a fait dans un avion, je pense que j'étais fatigué. Mais ceci dit, il était super, c'était Captain Fantastic.
Ok.
Ouais, c'était l'histoire d'un père un peu hippie avec sa famille et tout. Ouais, et à un moment, j'ai dit putain.
Là, t'as lâché là.
J'ai lâché. Le vol était long, j'avais faim, j'ai lâché l'alarme. Mais non, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Okay. Mais maintenant, le genre de la comédie, oui, la sentence, elle est immédiate. Et quant à la recette, moi, je pars toujours du même principe, tu vois, et je parle de mon principe que j'emploie sur scène. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé à un moment, un niveau, entre guillemets, où je m'en fous d'être drôle, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sincère, en fait, dans ce que je fais. Être drôle, la vanne et tout, la technique, la punchline, et j'en ai rien à branler, en fait.
C'est-à-dire que globalement, tu sais que tu... Sans prétention, mais tu le maîtrises, c'est ça, c'est que maintenant... C'est...
Non, en fait, c'est moi, j'ai confiance en mon état. C'est pas un truc de maîtriser, de dire « je maîtrise la scène », c'est que si je prends du plaisir, si je suis sincère dans ce que je fais, et ben en fait, ça va, en fait. Même si je prends un beat, je veux rire au fond. Tu vois ce que je veux
T'as
dire
T'as moins peur de ça.
Ouais, j'ai pas peur, en fait. Ouais. Mais c'est simplement que si je suis dans la posture et que j'arrive, je suis un peu le mec cool, un peu, je dis, mais non, à un moment, t'es pas cool. Arrête de mentir, t'es pas cool du tout, et surtout aujourd'hui. Viens avec ce que t'es. Viens avec ce que t'as envie de raconter. Je pense que dans le cinéma, bien sûr, après, il y a le montage, il y a tout un tas de choses. Mais qu'est-ce qui te motive, en fait, à vraiment faire ça? Est-ce que... Là, tu vois, c'est facile pour moi de faire la promo de ce film. Parce que on l'a. Ouais, j'y crois, on l'a dans les tripes, il nous a fait tous marrer. Et il y a des fois où tu sens que c'est dur, parce que tu dis, putain, il y a un endroit où ça frotte. Et je pense qu'un bon projet, dès le départ, tu le sais. Maintenant, là, je t'ai bien dit un bon projet, je t'ai pas dit un projet qui va marcher. Ça, on n'en sait jamais rien.
Oui, bien sûr. Mais alors, aujourd'hui, parce que tu dis que voilà, maintenant, t'es plus à l'aise, évidemment, et que t'es plus sûr de toi, et que tu le fais aussi. Donc la question, c'est, est-ce que tu le fais? Quand tu fais un film comme ça, ou un spectacle, tu le fais pour toi, ou tu le fais pour le public?
Les deux. En tout cas, sur ce film-là, il y a une envie de public, en fait, de voyager un peu partout en France, de revenir à quelque chose de très franchouillard, en fait.
Assumer.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est aussi nous, enfin, c'est aussi moi, quoi, dans le sens où Yvon, je le connais. C'était vraiment, je l'ai eu en entraîneur de foot. Ouais. Il y avait un professeur d'un de mes grands frères qui s'appelait... Bon, bref, je vais pas dire son nom, mais qui était une sorte de cast and touch. Il leur mettait des coups de pied au cul. Tu te dis, mais tain, c'était quand même une sacrée époque, quand même. Le prof, quand il arrivait dans la cour, il s'autorisait à mettre aujourd'hui, mais c'est... Il est viré, France 2, ils allument le... Voilà, il y a des parents qui parlent. Oui, il a mis un coup de pied au cul à ma fille. Enfin, on vit... Tu vois, c'est...
Ouais.
Et c'était cette époque-là, en fait. Tu vois, et ce mec-là, il pouvait le dire à mes parents, mais j'ai mis un coup de pied au cul à votre fils. Et ma mère, elle a dit, mais bien sûr.
Mais vous avez bien fait.
Ouais. Et il faudra même continuer si ça continue comme ça. Donc, tu vois, en fait, ce côté aussi franchouillard qui est dans notre culture pour de vrai, c'est pas un truc que j'invente, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a vécues. Il y avait des bons et des mauvais côtés, parce qu'il y a des choses... Évidemment, aujourd'hui, je suis père de famille, un prof qui met un coup de pied au cul à ma fille.
Oui.
Il va falloir qu'il justifie bien, tu vois. Mais c'est compliqué. Donc, il y a des bonnes choses qu'on a laissées, des mauvaises qu'on a importées. Bon, bref, mais quoi qu'il en soit, on voulait remettre un peu le patrimoine français à l'honneur.
Thomas, on t'a découvert dans les années 2000.
Ça fait bizarre d'entendre ça.
C'est la réalité. Ouais, et alors moi, je t'ai découvert, je crois, en même temps. Je ne sais pas ce que j'ai découvert en premier. Si j'ai découvert Thomas Ndijol au Jamel Comedy Club ou Thomas Ndijol dans le rôle de Black Pimp Thomas, qui était un personnage que tu avais, notamment sur les albums d'un artiste que j'adore.
Bien sûr.
ALPHA.
Bien sûr.
Et ça, c'est à la même époque, à peu près.
C'est à peu près à la même époque. Ouais. Ouais, c'est les époques où je faisais beaucoup de café-théâtre encore, parce qu'on est les derniers de notre génération, avec Fabrice Eboué, Batson et beaucoup d'autres, évidemment, à avoir fait
les
café-théâtre où t'arrivais et puis tu tentais le tout pour le tout, quoi.
Et donc, Black Pimp Thomas, c'était un personnage que t'avais créé, donc c'était un personnage de Pimp, comme on en a Macron, beaucoup dans le personnage dans le rap californien de l'époque.
Absolument.
Et je propose qu'on écoute un morceau extrait de Waldemann Rider.
Ah ouais.
Pas de Black Pimp Thomas, de LPHA, mais avec Black Pimp Thomas, en featuring à la fin. Il y a Driver dessus aussi également.
Absolument.
Est-ce que tu la sens, qui est un morceau que je trouve extraordinaire.
Classique. Est-ce que tu la sens, bien sûr.
Et l'album est classique aussi. Est-ce que tu la sens, donc, de ALPHA présent sur Waldemann Rider? C'est une autre époque.
Oui, mais j'adore. Assumer. Et c'est pas fini.
Et c'est... Quoi? Il revient?
On dit rien. On verra.
Très bien.
Te montrer maître du lourd sans haine dans l'arène, avec le vin, le groove dans les veines, des magots et la France black blamber. Je lève mon verre juste pour les riders, car ils ne voient pas la couleur. Je me pète d'où tu viens, je déboule avec du neuf. Garçon, West Rider, génération, putain, viens te mettre bien ta vue, avec un groove qui agite les culs. D-R-I-B-E-R, R-I-D-E-R, et le A pour D-R-U-I-D-E-R, M-Y-S-S-A-N.
bonne fun qu'on te fout, qui te fiste. Pas leur son à la con qui fout des kystes. Quand je pratique, j'ai la trique d'un politique. Qu'est-ce que tu la sors, ma zip?
Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens?
Pose du 9-5, un super Mac. Driver est dans la place et ça pue pas l'arnaque. Et une clique OP, zig OP, big OP. Je clean et je dirige la machine que tu ne peux stopper. C'est pour les strings, les caleçons, la funk à ma façon. Même à 60 piges, je serai de la nouvelle génération. Parce que je suis frais comme le son qui tourne. Bonne bourre, on a les burnes de Paris à Libourne. La bourse ou la vie, à ton avis. Moi je vide mes bourses et je donne la vie. Je remets le ghetto à la mode, pas besoin de se plaindre. Le sourire scotché, tu peux quand même me craindre. Est-ce que tu la sens? Ouais, ouais. Est-ce que j'encule Doc Gynéco? Ouais, ouais. Driver de passage pour les sages et les bandits. La main dans le front car je suis le Black Al Bundy.
Est-ce que tu la sens? 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 Est-ce que tu la sens?
M-Y-S-A, tu la sens façon gangsta. Je reste vrai dans le game, négro normal si je dead ça. Je représente pour mes négros dans la street. Ceux qui marchent contre le système au bec, toujours un spliff. Explosif comme la nitro. Sous le soleil, je suis un cocktail pour les mythos. Pourquoi tu flippes? Une bastos de plus pour mes boucles de la street. Sud, sale, DGC, boy, tu connais l'équipe. Et rien à foutre qu'on me prenne pour un maniaque. Tapé dans la bouche, full feu avec du cognac. Coiffé comme Kojak, j'suis trigger dans les packs. Grigny sud sans carte, t'as déjà mis une claque. On est hal, normal, on fait nos bails depuis le perso. Plus à récidive, cette fois perso en S-O-L-O. Mes négros derrière moi sont toujours sur le qui-vive. Et qu'on presse la marijuane, ils nous condamnent. Parce qu'on a ça dans le sang. J'verse une goutte pour les absents, est-ce que tu la sens?
Est-ce que tu la sens?
J'verse une goutte pour les absents, est-ce que tu la sens?
Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens?
Oh oui, je sais putain du temps! Oh oui, tout le monde le sent! C'est Black Pink Thomas! Ha! Ha! I got you!
C'était Est-ce que tu la sens de LPHA, ouais. Présent sur Val de Mind Rider avec notamment Black Pimp Thomas.
Ah ouais, là tu m'as mis bien, là. Ça faisait longtemps, ouais. Ça fait plaisir.
Moi je l'écoute très régulièrement ce morceau.
Ah bah oui.
Et vous l'avez entendu, Thomas Dijol est avec nous jusque 23h.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors Thomas, tu es là parce que y a le film donc Police Flash 80 qui sort demain, qui est un film donc sur une, on l'a dit, sur une équipe policière aux années 80, et on l'a un peu dit aussi, il y avait beaucoup de films sur des flics. Vraiment, ouais. je dis pas des policiers, je dis des flics.
Ouais, tu vois. Des flics. Ouais.
Dans les années 80, je voulais qu'on discute de quelques films. Tu me dis quel rapport t'as éventuellement avec eux si tu les as vus, ouais, ou pas. Et ouais. Je veux qu'on commence avec un premier film, Inspecteur la bavure.
Ah, c'est marrant.
Est-ce que tu te souviens de ce film?
Bien sûr, je me souviens de ce film et il m'a pas du tout marqué.
Ok.
Non, parce que figure-toi que Coluche me mettait un peu mal à l'aise en fait.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que c'est intéressant. J'étais pas trop dedans.
Ah ouais.
Ouais. Et pour moi, sa plus belle œuvre, et là j'étais par contre à fond dedans, c'était Le Maître d'école.
Okay, d'accord.
Le Maître d'école, j'adorais. Mais Coluche, les sketchs, c'est les enfoirés et tout, j'étais petit.
Ça te faisait pas, ouais, tu comprenais pas.
Ouais, en fait, c'était le mec du café, du bar pour moi et qui parlait trop. En fait, tu vois, j'étais jeune, quoi, tu vois, je pouvais pas être sensible. Et c'est vrai que la bavure, Non, j'étais plus bonsaï peut-être en comédie. Bonsaï m'a fait beaucoup, beaucoup rire. La bavure, j'étais pas trop dedans.
Bon, en tout cas, c'était un film donc, réalisé par Claude Zidi, sorti en 1980, donc au tout début de la décennie, avec donc Coluche et Gérard Depardieu. Et on suivait Michel Clément, fils d'un héros de la police, reçu de justesse au concours d'inspecteur, puis envoyé à la PJ malgré une incompétence assez spectaculaire. Évidemment, au lieu de devenir un grand flic, il accumule les gaffes.
Salut les hommes.
Salut la planque.
Eh ben, on voit que la saison des fêtes est terminée, hein. Vous leur faites pas de cadeaux à vos clients.
Mais c'est pas un client, c'est un flic.
Ah bon, parce que maintenant on a le droit de taper sur les flics.
C'est le nouveau stagiaire.
Ben, c'est pour une raison. Il a glissé.
On peut rien te cacher, tu l'emmènes à l'infirmerie.
Ah, et on s'est fou ce qu'il y en a qui glissent pour le moment, hein. C'est plus la maison Poulaga, hein. C'est Holiday on Ice.
Exceptionnel.
Je vois le genre.
Tu vois le, voilà, non, vois le lexique,
tout ça. J'ai bien compris.
Si Coluche, c'était peut-être pas trop une référence quand on était petit, c'était quoi les premiers acteurs ou en tout cas humoristes, personnalités, on va dire drôles,
personnalités
qu'on peut te marquer,
drôle.
Ouais.
Pierre Richard.
Pierre Richard, ouais.
Pierre Richard, vraiment, c'était le top du top quand j'étais petit.
Donc tous les films Le Grand Blond avec...
Enfin, le must absolu, c'est vraiment la chef, quoi.
Ouais.
La chef, c'est... Laisse tomber, c'est incroyable. Et après, un peu plus dans le temps, comme beaucoup, Les Inconnus. Hein.
T'étais plus... je veux pas...
La fameuse team Les Nuls contre Les Inconnus.
Voilà.
Bah, après, il y a un truc qu'il faut dire, Les Nuls, il fallait avoir le décodeur.
Exactement, moi c'est pareil, en fait.
Moi,
c'est
j'avais pas le décodeur, ouais. Donc à un moment, le choix, il était vite fait, quoi. Tu vois, donc, non, et puis non, mais les... Les Inconnus, c'est Didier Bourdon, vraiment, je le répète, ça fait 100 fois, mais c'est un génie, en fait.
Mmh.
Il a décortiqué toute la société.
Absolument.
Toute la société, de la bourgeoisie aux zonards. Et c'était pas facile, en plus, au début du rap, de faire la parodie du rap, parce qu'il y a des rappeurs qui se sont vexés.
Mmh.
Et s'ils se vexent, ça veut dire qu'ils touchent un truc vrai. Parce que quand c'est pété, ils font pas gaffe, en fait.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que non, c'était vraiment... Non, Les Inconnus, c'était fort, ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Tu tombes sur certains trucs, c'est Didier Bourdon, il était... Et je me permets de le citer, lui, parce que je voyais que quand même, c'était lui qui était quand même...
On avait le sentiment que c'était un peu le leader.
Ouais, il était quand même au centre, voilà, sans dénigrer les deux
Bien
autres,
sûr.
Évidemment, c'était un tout, mais Didier Bourdon, il avait... Quand il incarnait un mec, il le comprenait de A à Z, quoi, c'était incroyable.
Même quand il incarnait une femme, je pense notamment à Télémagouille, parce que chez Télémagouille, où il joue la fan de Stéphanie de Monaco, c'est un autre personnage
il est ultra fort. Il fait partie des mecs, mine de rien, j'aimerais... T'as fait beaucoup avec lui, hein, vraiment.
Ouais. Alors, à l'opposé complet de Inspecteur La Bavure, il y a Garde à vue de Claude Miller, sorti en 1981, avec Lino Ventura, Michel Serrault et Romy Schneider.
Elles sont tellement ignobles, vos questions, que vous en avez honte. C'est pas vrai, peut-être? Alors, à partir de maintenant, j'exige que tout soit consigné.
Bon, d'accord. Alors, âge, profession, situation de famille.
Merde!
Nom, prénom, profession, Martino.
Il me l'a déjà demandé.
Maintenant, c'est moi qui vous le demande. Alors, puisque vous voulez qu'on tape toutes les demandes et toutes les réponses, alors j'attends les réponses. Vous vous appelez Martino?
Oui.
Jérôme?
Oui, Jérôme. Charles-Émile.
Notaire, 43 boulevard de Lattre, Jobourg-Manche?
Oui.
Vous êtes marié?
Oui.
Sans enfant?
Sans enfant.
Pourquoi, ça fait des saletés?
Jérôme, Charles-Émile, Martino. Mais à partir de là, moi, j'ai envie de voir ce film. Je ne l'ai pas encore
tu
vu.
Tu ne l'as pas vu encore?
Non,
okay.
et Michel Serrault, de manière dès qu'il est dans un film, Michel Serrault, il imprime... ça c'est une époque. Il y en a tellement que j'ai rattrapé.
Bien sûr, non, mais après, il y en avait vraiment beaucoup.
Il y en avait beaucoup,
c'est vrai. Parce que tu sais tout à l'heure le film Parole de flic avec Alain Delon. Est-ce que toi, tu avais d'autres films comme ça qui ont pu te marquer autour de ces univers-là, sur cette époque-là? Ça peut aussi être des films américains.
Ah oui, non, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de Belmondo aussi,
ouais.
Tu vois, le marginal, le professionnel,
bien
qui
sûr.
Est quand même celui qui nous a donné le plus d'émotion. Côté américain, oui, on a beaucoup à commencer. Classique, le flic de Beverly Hills, qui est quand même dans un autre genre.
Ouais.
Enfin, peut-être plus comédie, et encore que c'est un polar qui se tient super bien.
Ouais, ouais.
Et puis, ouais,
il y avait 48 heures aussi,
48
à l'époque,
heures,
avec Nick Nolte et Eddie Murphy.
Les films de Walter Hill. Walter Hill a fait beaucoup de super films à cette époque.
Tout
puis il y en a, je pourrais t'en citer plein, là, comme ça, tout me revient pas. Après, il y a les trucs un peu plus navets, genre Tango et Cash.
Oui.
Tu vois, qui sont. On sait. C'est marrant parce que même petit, tu sais que tu regardes un navet, mais c'est tellement cool. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même leurs répliques, elles font rire, quoi. Tu vois, Ray Tango, Gabriel Cash, il y avait un truc un peu pété, mais...
Un peu assumé aussi, je
pense. Ouais, un peu assumé aussi. Et non, cette époque, elle est magique.
Thomas Dijol est avec nous jusque 23h. Thomas, on l'a dit, t'as quand même aussi un rapport avec le foot. C'est un sport que tu suis.
Que je suis, que j'ai pratiqué.
Que t'as pratiqué.
Ouais.
Que tu suis encore de manière assidue aujourd'hui.
Ah ouais, moi tu sais, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. Et je me rends compte que le foot, c'est quand même ma soupape. Hein.
C'est-à-dire que tu en consommes beaucoup.
Ou
tu pratiques peut-être aussi encore.
J'ai fait beaucoup de kiné pour y revenir, parce que j'ai officiellement fait un jubilé dans mon quartier, pour de vrai.
Okay.
Tu peux te renseigner, quartier vert de Maison Liberté. J'ai organisé grand barbecue, pique-nique, venez jubiler Thomas, j'arrête. C'était mes amis du quartier contre mes amis de la fac et de l'école. Mais là, j'ai envie de reprendre, en fait. J'ai envie de reprendre. Mais c'est chiant, parce que j'aimerais faire de la compète, mais on connaît ma gueule. Et quand je joue au foot, je deviens méchant, en fait.
Oui, donc ça va faire le tour des réseaux et c'est relou.
Ah là, Thomas Angel, je fais poursuivre sur un match par deux joueurs, tu vois, parce que je vais certainement pas gagner. Parce que voilà. Donc, non, j'ai pas envie. Mais en même temps, j'aime la compète, quoi. J'adore.
Bon, alors, vu que tu aimes le foot, je te propose d'élire un peu ton icône de foot préféré. Je te mets à chaque fois deux personnes, tu me dis laquelle tu gardes.
Ok, d'accord, vas-y. Okay.
Et on va commencer fort.
Vas-y.
Beaucoup de Parisiens, parce que je crois que tu as un rapport avec le PSG.
Bien sûr.
Rai, donc légende des années 90,
Rai, oui.
Ousmane Dembélé.
Oh là là.
Oui, non, mais on n'a pas le temps.
Direct. Écoute, Rai ayant quitté le navire pour le PFC, qu'on respecte aussi. Et Ousmane étant l'homme du moment, c'est Ousmane Dembélé.
Est-ce qu'on est assez... Enfin, j'ai l'impression que c'est... Ousmane n'est pas là depuis très longtemps,
ouais.
Mais il est déjà peut-être une des figures les plus légendaires du club. Aussi grâce à cette saison de l'année dernière, mais il y a un dévouement aussi, il y a une attitude qui, je crois, fait vraiment plaisir aux supporters parisiens.
Tu viens de dire, il y a une attitude, il y a une proximité.
Ouais.
En fait, c'est monsieur tout le monde, en fait, Ousmane, dans déjà la personne qu'il est. C'est le mec que tu aurais pu connaître et qui aurait pu être à l'école avec toi, qui aurait pu être ton voisin. Et puis dans le jeu, il y a la victoire du populisme, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu le mec avec qui on aurait pu jouer, qui était bien évidemment au-dessus de tout le monde. Mais il nous amène ce frisson du gymnase, ce frisson du match pourri dans notre quartier, dans le stade municipal et tout. Il a ça, en fait. Donc, en fait, lui tout seul, il incarne beaucoup d'émotions du football amateur et de la proximité. Donc, pour toutes ces raisons, on l'adore.
Ousmane Dembélé ou Nicolas Anelka?
Dembélé, mais Anelka, il a été
iconique
et c'est un peu un tirailleur.
Complètement.
C'était le premier d'une autre génération, beaucoup d'incompréhension, il a pris tellement de balles perdues et je l'ai croisé il n'y a pas longtemps par hasard et je ne le connais pas vraiment, mais j'aime bien l'homme qu'il est, en fait. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'apaisement au-delà de la barbe de ça, je ne sais pas, le souci. Mais il y a un truc, où tu sens qu'il est...
Il est en paix avec ses choix.
Ouais. Et j'aime bien.
Ousmane Dembélé, on change d'époque, mais une époque qui va te plaire. David Ginola.
Ah, vas-y, j'en ai donné deux à Ousmane, là, Ginola.
Ginola. Hein.
Bah oui.
Enfin, Ousmane, extraordinaire.
Bien sûr.
Ginola, il y a quelque chose.
Oui,
quand
non,
il y a
mais,
du panache.
Non, mais Ginola, c'est les cheveux, il se faisait tacler. Moi, quand je jouais au foot, je dribblais, je disais Ginola, tu vois.
Ouais.
C'est quand j'étais enfant, j'étais là, Ginola, tu vois. Non, Ginola, c'est trop d'émotions. Là, c'est ce PSG-là, moi, c'est des frissons, ça. Ah oui.
David Ginola ou Patrick Mboma?
Ah,
légende du football camerounais.
Bien sûr, Magic Mboma. Ouais. Patrick Magic Mboma, on l'appelle au Cameroun.
Absolument. Qui avait joué au PSG aussi.
Qui a joué au PSG, qui a mis une bicyclette au Stade de France contre l'équipe de France avec l'équipe nationale du Cameroun, qui est un joueur iconique du Cameroun. Mais c'est vrai que, non, je vais partir sur Ginola pour le PSG, parce que voilà, c'est... Non, et puis je crois qu'ils ont même joué à la même période.
Oui, tout à fait, absolument.
Non, mais Mboma, beaucoup de respect, mais ce PSG-là... Rends-toi compte qu'on allait au Parc des Princes, sachant qu'on allait tomber sur des skins. Donc on était prêt.
Tu y allais, toi?
Bien sûr qu'on y allait. On partait avant la fin du match à l'époque, parce que c'était dangereux. Parce que moi, je suis tombé sur des skins à l'époque. C'était complètement lunaire. Mais bon, bref, on n'en parle pas. Mais le parc, c'était pas un endroit sain à l'époque, si on peut dire. Enfin, certains endroits du parc. Et non, on aimait tellement ce PSG, on aimait tellement cette ambiance que, voilà, on était prêt à prendre des risques, pas en découte. J'étais un enfant, mais c'était incroyable, cette époque.
David Ginola ou Ronaldinho?
Ginola.
Est-ce qu'on peut battre Ginola ou est-ce qu'on reste sur Ginola?
Non, tu peux le battre largement, t'as pas choisi les bonnes personnes.
Mais j'ai pas envie de dire Zizou.
Non, si tu peux dire ce que tu veux, mais je te parle, moi le foot, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'émotion,
ouais.
C'est les frissons. Tu vois ce que je veux dire? Ronaldinho, il m'a pas fait frissonner tant que ça. C'était un joueur incroyable, mais il est resté peu de temps. C'était Fernandez, c'était compliqué, il a fait des trucs incroyables.
Bien sûr.
En termes de frissons, j'ai pas frissonné de fou malade devant Ronaldinho. C'était un génie, il y a pas de souci. Mais il a été épanoui totalement en termes de frissons à Barcelone.
Absolument.
Pas à Paris.
Je suis d'accord.
Et moi, Ginola, non, c'est... C'est, il représente, voilà, quand je t'en, c'est pas rationnel parce que pour moi c'est les émotions. Tu vois, j'ai même pas de mots à dire derrière. C'est comme si tu me cites Georges Weah. Georges Weah, je l'ai vu devant moi une fois au Parc des Princes. J'ai pas osé aller le voir parce que je l'ai tellement aimé que je voulais même pas lui demander une photo. Je le regardais comme ça parce que c'est moi enfant qui me revois. Je dis non, là il y a Georges Weah. Il mérite pas que je fasse un selfie. Je le regarde en fait. Je le regarde, je le respecte. C'est mon histoire. C'est trop. Donc quand ça connecte à ces choses-là, c'est comme l'un des derniers, mine de rien, de quand t'avances, c'est Zlatan. Zlatan, c'est trop.
Extraordinaire.
Zlatan, c'était trop.
Ouais.
C'est pas possible, en fait. C'est un mâle dominant. C'est un connard.
Il tu a vois, marché sur la Ligue 1.
Il a marché sur tout le monde, mais il était génial. Et c'est pas enfin, un connard qu'on aime. T'sais. Et puis, il est intelligent. Puis, il est politique. Je te jure, tu lis ses interviews, dans Ma part d'ombre, le documentaire d'Olivier Dacourt, son truc. Puis, c'est le truc qu'il a dit dans ce documentaire. Les gens ne l'ont pas vu, mais c'est incroyable ce qu'il raconte. D'un point de vue politique, les gens n'ont pas fait gaffe. Le truc devrait être coupé sur YouTube ou je ne sais pas quoi et diffusé. Non, il est trop fort, Zlatan, j'adore.
Bon, on se dit que ça joue entre Ginola, Zlatan, Georges Weah. En tout cas, c'est légende du
Paris. Oui, il y en a beaucoup, on en a cité beaucoup, mais on aime Paris, voilà.
Exactement. Je pense qu'on écoute un morceau de Thundercat, qui est un musicien extraordinaire.
Bien sûr, de funk.
Exactement, absolument. Qui a travaillé avec beaucoup de personnes, notamment Kendrick Lamar, qui sort un album très prochainement, qu'on avait reçu dans cette émission, et qui a sorti un morceau génial avec Lil Yachty, qui s'appelle I Did This To Myself. On s'écoute ça, c'est de la musique pour toi, ça. C'est de la musique funk, évidemment que t'aimes ça.
Allez.
Hey, what are you doing later tonight after you're done with work? I know you might be tired. I'm gonna be awake.
C'était donc I Did This To Myself, Thundercat, en collaboration avec Lil Yachty.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Nous sommes avec Thomas Ndijol pour Police Flash 80 qui sort demain dans toutes les salles. Et c'est l'heure des recommandations. Et tu m'as envoyé des belles recommandations, et notamment un album de Niels Barclay.
Ouais.
Et je t'avoue que je t'ai passé à côté de l'information du retour. Oui, moi.
Toi, Mehdi.
Absolument.
Incroyable.
Et donc, c'est le grand retour donc, de ce collègue, ce groupe en tout cas, qui est devenu mythique, avec notamment ce morceau, Pictures. Alors, Donc ils ont sorti un album le 6 mars, si je ne dis pas de bêtises, donc tout récemment.
Ouais.
Alors évidemment, ils sont connus pour Crazy.
Bien sûr.
Mais dans ce collectif-là, il y a notamment Silo
Green,
qui faisait partie de Goody Mob,
ouais.
groupe mythique du rap américain.
Ouais, ouais.
J'imagine que tu suis ça aussi peut-être de cette époque-là
ouais.
et que tu continues à suivre Silo et Gnarls Barkley. Ouais.
Oui, en fait, c'est assez agréable. Évidemment, moi, j'étais très, très musique d'Atlanta et tout, de cette époque en tout cas. Et ouais, Silo, en fait, sa voix m'a tout de suite interpellé. Tu vois, dans Goody Mob, j'ai dit,
ouais.
putain, lui, il a un truc. Et j'ai acheté, plus jeune, j'ai acheté tous ses albums solo, là. Je ne me rappelle plus des titres exactement.
Ouais.
Et je le suis depuis. Et en fait, il est... Bon, c'est un génie, ce mec, en fait. Tu vois, c'est une sorte de Ned Dogg
ouais,
d'Atlanta. Il est dans
ouais.
tous les albums de Tout le monde l'appelle.
Outkast.
Voilà, ouais. il est tout le temps là. Enfin, il est plus que le mec qui fait les refrains, les hooks,
bien
tu
sûr.
Vois. Parce qu'il fait rapper, chanter et tout. Et non, il est toujours créatif, quoi. Moi, je le trouve archi fort. Et cet album, ouais, qui est sorti il y a peu, je l'écoute en voiture, là. Il est super. Ma fille m'a dit, c'est dégueulasse. Elle dit, tu peux enlever ton truc, là. Ça m'a foutu un peu le cafard. Je dis, ah ouais, c'est vraiment yeuve. Parce qu'elle n'a pas validé.
Il faut accepter, non.
Il faut accepter. Bon, après, elle, derrière, fait du Théodora, de la K-pop et tout. Mais... comme je le dis à plusieurs reprises, j'adore Théodora, c'est pas
ouais.
du tout le souci, c'est sauf qu'elle le met en boucle,
oui,
en, boucle
oui, oui.
en boucle. Et voilà, moi je suis un peu plus dans mes sons, on va dire, mais pas validé par les enfants, ça arrive.
Je conseille, alors, parce que tu parles de Silo et de Goody Mob, il y avait l'album Soul Food de Goody Mob
ah bah
qui
oui.
était extraordinaire, qui est un classique, voilà,
où
les gens qui veulent découvrir ça. Et autre recommandation, c'est une série, c'est la série Un Prophète,
ouais.
Donc qui est tiré du film de
Audiard. Ouais, ouais, ouais.
Ah
ouais.
Donc t'es dedans en ce moment, c'est ça et
ouais,
tu...
à fond, à fond. Franchement, là, j'ai... Bah, au moment où on parle, hier, il y avait l'épisode 4 que j'ai pas vu. J'ai vu ma meuf le regarder égoïstement dans le salon pendant que je donnais à manger au chien. J'ai dit, ok, ça attend pas son lascar, mais c'est pas grave. Mais ouais, j'adore la série. Là, donc les trois premiers épisodes, j'étais dedans et j'en suis d'autant plus fan et fier que les deux auteurs de la série sont deux amis, Abdel Raouf Dafri,
oui.
qui est un ami qui a justement travaillé avec ma femme, que j'aime beaucoup,
oui.
et Nicolas Peufaï, qui est aussi un ami. Donc je suis très admiratif du boulot parce que putain, l'écriture, c'est costaud, ça se tient.
T'étais fan du film, j'imagine, à
l'époque. Bien sûr, le film ouais. de Jacques Audiard était super.
Ouais.
Non. Et puis là, c'est une nouvelle histoire, mais on se voit l'affiliation avec le film, mais en même temps, on part dans autre chose. C'est incomparable. Puis ouais, le comédien, là, j'ai oublié comment il s'appelle, je ne veux pas écorcher son nom, mais le comédien qui joue le rôle
ouais.
central est super, ça m'éboigit là, tout ça. Donc c'est bien quand il y a des séries françaises,
ouais.
parce qu'il y en a, hein, c'est pas la première, mais c'est bien de saluer en tout cas le travail de cette série en ce moment. Ouais.
Thomas, c'est l'heure de la question qui tue.
Waouh ! Ah là là.
Alors, tu es là pour Polyflash 80,
ouais.
une comédie
ouais.
française
ouais.
Que j'ai beaucoup appréciée, je
Merci.
Te l'ai dit vraiment,
Merci
qui
beaucoup.
Remplit complètement le contrat. Mais donc, je te pose la question, pour toi,
ouais.
quelle est la meilleure comédie française de tous les temps ?
De tous les temps ?
Oui, pour toi.
Merde.
Si tu devais en dire une, comme ça.
Bah, tu sais quoi ? Pour une fois, je me la racontais, je veux dire Casse Départ.
Ah ! J'aime bien ce flex.
Ouais, je veux dire Casse Départ.
Mais en tout cas, elle est devenue iconique et importante, même générationnellement.
Ouais.
Tu sens que les gens y reviennent.
Mais je sens que des fois, justement, c'est bien de la citer à France Inter. Parce que des fois, elle est citée sur Bouscapé, sur...
respect à Bouscapé.
Mais évidemment, sur Génération, tout ça. Et non, je pense que Casse Départ, en fait, cette comédie a donné une impulsion à beaucoup de générations. Et tu vois, j'avais parlé il y a longtemps à Philippe Lachaud. Je pense que ça les a aussi donné l'impulsion de dire, vas-y, on y va.
Mmh.
Tu vois ce que je veux dire ? Parce que Casse Départ, au-delà du film, il y a aussi un truc à dire, en fait... personne ne va écrire pour nous mieux que nous, en fait.
Mmh.
Donc, faisons ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que générationnellement, bah, y a eu plein de bébés derrière. Je pense, tu vois, il n'y a pas plein de bébés, pas qu'on soit les pères, mais il y a une impulsion d'un, pas dire un autre cinéma, mais une autre direction de la comédie. Et c'est vrai qu'avec le temps, elle se bonifie bien, quoi. Tu vois, il y a des jeunes, c'est drôle, quoi. C'est le mec de Casse Départ. Bah, je trouve que c'est génial. J'aurais, vas-y, pas dit au moins fait ça dans ma vie, mais on l'aura fait, quoi. Parce que j'étais pas seul, évidemment. Il y a Fabrice qui est dans l'histoire. Et non, je pense que. Ouais, je pense qu'il faut pas. Je pense que maintenant, on est en droit de pas la citer comme ça à la volée, à dire que
elle
non,
compte,
non.
Ouais.
Casse Départ, elle est là. Et puis voilà, j'ai pas envie de la célébrer quand je serai six pieds sous terre.
Thomas Indigel, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Vraiment. On rappelle donc que Police Flash 80 est disponible demain dans toutes les salles. Allez le voir, allez rigoler. Merci d'avoir été là, Thomas. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui a été préparée par Alexia Lacour, Tara Natouri, Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Nicolas Delmas et Jérôme Ragano. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons à la même heure avec Stilto. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.